Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, nous parlerons du Sénégal. C'est le jour J pour Bassirou Diomaye Faye, vainqueur dès le premier tour avec plus de 54% des voix. Le plus jeune président de l'histoire du Sénégal prêtera serment ce matin dans la ville nouvelle de Diamniadio. La cérémonie doit commencer dans un peu moins de 3 heures au Centre international de conférence Abdou Diouf. Dans la foulée, le nouveau chef de l'État se rendra au palais présidentiel à Dakar pour la passation de pouvoir avec son prédécesseur. Sœur Macky Sall, alors que vous inspire cette alternance pacifique? Quelle image vous renvoie le Sénégal? Et nous en profiterons bien évidemment pour vous donner la parole sur les nombreux défis que devra relever Bassirou Diomaye Faye, élu, rappelons-le, sous la promesse de la rupture, rupture avec le système en place. Quelles seront ses priorités? Quels seront ses premiers chantiers? On vous attend au standard 33 9 693 693 70 et vos commentaires évidemment sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Niale Lai nous a appelé de Conakry en Guinée. Bonjour Niale Lai.
Bonjour Monsieur Wan.
Soyez le bienvenu. Merci de nous appeler de la capitale guinéenne. Vous avez des questions concernant votre pays?
Absolument Monsieur Wan.
On vous écoute.
Bonjour à vos millions d'auditeurs. Monsieur Wan, la semaine dernière, le général Mamadi Doumbouya a dissous tous les conseils communaux pour les remplacer par des délégations spéciales. Mm-hmm. Monsieur Wan, j'aimerais savoir comment vont être choisies ces délégations.
Oui, la dissolution des conseils communaux. Voilà une décision qui fait débat. Certains partis, comme le RPG du président renversé Alpha Condé, y voient d'ailleurs une manière de prolonger la transition. Bonjour Sidi Yansané.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous, journaliste au service Afrique de RFI. Les conseils communaux seront donc remplacés par des délégations spéciales.
Oui, alors pour mieux saisir l'enjeu politique derrière ces délégations spéciales, revenons tout d'abord à la dissolution de ces 342 conseils communaux qu'elle s'apprête à remplacer. Cette dissolution, elle était prévue de longue date, hein, Juan. Le président Mamadi Doumbouya l'avait de nouveau annoncé lors de son discours du Nouvel An. La raison invoquée, c'est que le mandat des maires et de leurs équipes élus en 2018 a expiré depuis l'an dernier et la logique que privilégie la présidence dans cette période de transition, c'est qu'au lieu de prolonger le mandat des élus, on nomme des remplaçants dont la mission sera d'expédier les affaires courantes locales en attendant la tenue des prochaines élections communales. Alors cette même solution avait été choisie hein, par l'ancien président Alpha Condé. Oui. À son arrivée au pouvoir en fin 2010, le mandat des conseils était arrivé à terme et il a opté pour la délégation spéciale nommée en attendant le conseil élu.
Alors dites-nous comment seront choisis justement les membres de ces délégations spéciales?
Alors l'article 102 du Code des collectivités stipule que c'est le ministre chargé des collectivités qui désignera les membres parmi les résidents de la commune et sur proposition du représentant local de l'État. Donc généralement c'est un préfet ou un sous-préfet.
Allez, vous avez une autre question?
Oui, M. Wan, j'ai une autre question. La deuxième législation communale doit être organisée dans un délai de 6 mois. J'aimerais savoir, pourront-elles être organisées dans les délais?
Alors, délai de 6 mois, c'est ce que prévoit effectivement le Code des collectivités. Est-ce que le calendrier sera respecté?
Alors, sur RFI, le Premier ministre lui-même, Baouri, a déjà répondu que non. Le mois dernier, au micro de Christophe Boisbouvier, il annonçait un prolongement de la transition qui devait initialement finir à la fin de cette année, ce qui compromet donc le calendrier électoral. Et donc, selon le chef du gouvernement, il faut d'abord effectuer un recensement de la population qui permettra ensuite d'établir un nouveau fichier électoral avant la tenue du référendum pour une nouvelle constitution dont le contenu n'a toujours pas été dévoilé. Donc, à moins d'une accélération considérable du processus de transition, les conseils communaux ne seront pas élus avant l'an prochain. Et c'est d'ailleurs l'un des grands enjeux politiques des prochains mois. Les délégations spéciales nommées par le gouvernement qui se chargeront d'organiser localement le référendum prévu cette année, c'est ce qui divise hein, la classe politique qui craint que ces délégations soient totalement inféodées à la junte du CNRD et aux autorités de transition et donc favorisent le camp du pouvoir lors du du référendum et des prochains scrutins locaux et nationaux. Les forces vives de Guinée, composées de coalitions de partis politiques et d'organisations de la société civile, ont déjà dénoncé la dissolution de ces conseils communaux en affirmant que cela trahit, je cite, la volonté de la junte du CNRD d'exercer un contrôle total sur les collectivités.
Et vous qui nous écoutez en Guinée, que pensez-vous justement de la dissolution des conseils communaux? On en parle, si vous le souhaitez, évidemment, vendredi dans la Libre Antenne. Le vendredi, c'est vous qui choisissez le contenu de l'émission, donc tous les sujets nous intéressent. Niale Lai, a-t-on répondu à vos questions?
Je suis satisfait. Vraiment, je salue la RFI, je salue M. Sidi Gansané.
Eh bien, il vous écoute et il est ravi. Il a le sourire.
Merci, Niale Lai. Bonne journée à vous.
Allez, bonne journée à tous les deux. Il est 10h16 à Paris, 33 9 693 693 70. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Bonjour, Kim.
Oui, bonjour, Juan Gomez.
Dans la capitale de la RDC, vous avez des questions justement sur votre pays et sur la dernière passe d'armes entre le parti du président Tshisekedi et le camp de l'ex-président Joseph Kabila.
Oui, évidemment, l'actuel secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, a accusé l'ex-président Joseph Kabila de soutenir les rebelles de l'Est de la RDC. Mmh. Alors, cette accusation a-t-elle un lien avec la participation à un meeting de l'AFC des trois cadres de son parti?
Ah. Alors, autant vous dire que les propos d'Augustin Kabouya sont très, très commentés en République démocratique du Congo. Bonjour, Trésor Kibongula.
Bonjour, Juan Gomez.
Analyste politique à Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Tim le rappelait à l'instant, samedi, le chef de l'UDPS, donc le chef du parti présidentiel de Félix Tshisekedi, a accusé l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, d'être derrière les rebelles du M23 qui déstabilisent l'Est de la RDC. Qu'est-ce qui lui permet d'affirmer que Kabila soutient le M23?
C'est vrai que ce sont des propos très graves, hein, surtout émanant du numéro 1 du parti présidentiel. Et ces déclarations sont intervenues après ces meetings de l'AFC, l'Alliance du Fleuve Congo, la coalition politico-militaire aux côtés du M23, où ont été aperçus de cadres du PPRD, donc les partis de l'ancien président Joseph Kabila. Donc il faut tout de suite rappeler les contextes. Ici à Kinshasa, les contextes étaient très tendus, crispés, à cause notamment de cette progression continue du M23 qui continue à gagner du terrain dans la partie Est. Et ici à Kinshasa, ça alimente comme ça des suspicions des politiques les uns envers les autres. Et voilà, dès là, avoir la main
De l'ancien président derrière, je pense que... De l'ancien président, oui, effectivement. Oui. Ce n'est pas parce que trois membres du PPRD, effectivement, sont aperçus dans ce meeting que l'ancien chef de l'État soutient forcément les rebelles du M23.
Voilà, c'est un peu ça la ligne de défense du PPRD. Hein. Ces derniers jours, on a vu des cadres de l'ancien parti présidentiel, Ferdinand Kambéré, son secrétaire permanent, Patrick Kanga, les porte-parole du bureau politique du PPRD, faire le tour de stations de radio locales ici pour dire que les PPRD restent dans la résistance politique. Parce qu'il faut rappeler aussi que les PPRD a boycotté les processus électoraux, mais le PPRD insiste pour dire qu'il reste un parti républicain et les proches de Kabila indiquent aussi que des individus quittant les partis politiques pour rejoindre ces groupes rebelles ne sont pas exclusivement ceux du PPRD. Il y a aussi des anciens cadres du parti présidentiel UDPS ou même du MLC de Jean-Pierre Bemba qui ont rejoint l'AFC récemment.
Oui, l'AFC, c'est donc cette plateforme politico-militaire créée il y a quelques mois par Corneille Nangaa, qui n'est autre que l'ancien président de la commission électorale sous Joseph Kabila. Trésor Kibongula, avant de donner la parole à Tim qui a une dernière question à vous poser. Le chef du parti présidentiel a déclaré samedi dernier que l'ex-président avait fui le pays. C'est une des raisons qu'il pose sur la table pour dire, voilà, il soutient les rebelles du M23.
Mais lorsqu'on discute, oui, c'est vrai, il faut remettre aussi là la déclaration dans les contextes. Augustin Kabouya a été devant les partisans de l'UDPS, donc ce sont vraiment des propos graves mais tenus dans un meeting politique. Mais lorsqu'on discute avec les officiels, il n'y a pas vraiment de confirmation que Joseph Kabila a fui. On nous dit qu'il y aurait des renseignements qui font croire que l'ancien président a quitté le pays sans avoir l'aval de services de l'immigration. Là encore, encore. Personne n'est vraiment à même de nous confirmer. Donc, il n'y a pas encore des preuves concrètes que Joseph Kabila a fui le pays. Récemment encore, on a entendu sa femme demander à ce qu'il revienne dans le jeu politique. Donc, je pense que la rapide association entre l'absence de Joseph Kabila dans le pays, la présence des cadres du PPRD à un événement de l'AFC et l'accusation d'un soutien aux rebelles par l'ancien président me semble en tout cas prématurée.
Tim, votre dernière question.
Alors, comment le PPRD a-t-il réagi face à ces accusations?
Alors, Trésor Kibongula, en quelques mots, PPRD dément évidemment ces accusations.
Oui, le PPRD dément et le PPRD continue à insister, comme je disais, que ça reste un parti républicain et que, voilà, et il ne comprend pas l'agitation autour de Joseph Kabila ces derniers temps. Et le PPRD rappelle aussi que, voilà, il y a des cadres du MLC, MLC c'est le parti de Jean-Pierre Bemba, qui est ancien chef rebelle, aujourd'hui vice-premier ministre en RDC, très proche du président actuel, et des cadres de ces partis se retrouvent aussi aux côtés de rebelles de l'AFC à l'est du pays. Donc, ce n'est pas seulement les transfuges du PPRD qu'on peut compter aujourd'hui parmi ceux qui quittent Kinshasa pour rejoindre la rébellion.
Et certains proches de Joseph Kabila envisagent même de porter plainte pour diffamation. Merci infiniment, Trésor Kibongula, pour cette analyse autour de cette dernière passe d'armes entre le parti présidentiel et le camp de l'ancien président Kabila. 10h22 à Paris, Pierrick Bonneau du service politique de RFI nous rejoint. Soyez le bienvenu, Pierrick.
Bonjour, Juan Gomez.
On va parler donc politique française. On a reçu des questions sur le Rassemblement national. Donald, bonjour.
Bonjour, Juan.
Nous vous écoutons. Soyez le bienvenu.
Ok. J'ai entendu quand Jordan Badera et Marine Le Pen, il y a des divergences sur l'OTAN. Comment expliquer ce désaccord entre les deux leaders du parti?
Alors, visiblement, Pierrick Bonneau, sur plusieurs sujets, il y a divergence entre Jordan Bardella, qui est le président du Rassemblement National, et Marine Le Pen. Ils ne sont plus sur la même ligne.
Alors, Donald fait référence en fait à une interview donnée par Jordan Bardella en fin de semaine dernière aux médias Politico. Dans cette interview, que dit la tête de liste du Rassemblement National pour les Européennes? Eh bien, que l'ERN ne souhaite pas que la France sorte du commandement intégré de l'OTAN, l'alliance militaire entre les pays européens et nord-américains, tant que la guerre en Ukraine est toujours en cours. Le problème, c'est que ça ne correspond pas en fait à ce qui est écrit dans le programme de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2022. Quelques heures après l'interview de Jordan Bardella la semaine dernière, l'ERN a réagi en précisant que Marine Le Pen elle-même avait nuancé sa proposition. Et c'est vrai, interrogée par CNews en mars 2022, la candidate à la présidentielle admet qu'on ne peut pas sortir des traités en pleine guerre sur le sol européen. Alors qui croire, le programme de 2022, la triple candidate à la présidentielle quelques semaines plus tard, ou l'actuel patron du parti aujourd'hui, on est un peu perdu comme souvent.
Ouais. Et il n'y a pas qu'au sujet de l'OTAN que la ligne du parti fluctue, évolue. Ouais. On voit que c'est en fonction de l'actualité, en fonction de l'interlocuteur. Et il arrive de plus en plus souvent à Jordan Bardella et Marine Le Pen de dire tout et son contraire.
Oui, et l'une des parades des communicants du parti, c'est de dire que le problème vient de nous, les journalistes, qui ne comprenons rien à rien. Marine Le Pen, la première, aime bien jouer cette partition, hein, mais c'est une réalité incontestable, Juan. Les propos de Jordan Bardella et Marine Le Pen ne sont pas toujours complètement raccord, se contredisent même parfois à quelques jours d'intervalle, particulièrement au sujet de l'Ukraine. J'ai sous les yeux quelques exemples. Il y a une dizaine de jours, sur France Info, Jordan Bardella donne une condition à l'ouverture de négociations de paix, que les troupes russes se retirent du territoire ukrainien. Condition que Marine Le Pen ne jugeait pas réaliste quelques semaines plus tôt, le 12 mars pour être précis, lors du débat sur le soutien de l'Ukraine à l'Assemblée nationale. Autre exemple, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, Jordan Bardella dit pourquoi pas à la livraison de missiles français à longue portée à l'Ukraine. Pourtant, en novembre 2023, il y a moins de 6 mois, c'était non pour Marine Le Pen qui appelait à arrêter d'armer l'Ukraine au risque, je cite, de continuer la boucherie.
Allez, Donald, une dernière question.
Justement, quelles sont les conséquences pour le parti à 2 mois des élections européennes?
Les européennes le 9 juin, ouais. Le Rassemblement national qui caracole en tête dans les intentions de vote.
Oui, alors pour le moment, les conséquences, on a du mal évidemment à les mesurer. Les divergences ou nuances entre la patronne et son dauphin se limitent à des sujets assez techniques. Pas encore de quoi menacer, à mon sens, la cohérence d'ensemble de la ligne du parti. Mais ces accros sont de plus en plus fréquents, comme je vous le disais. Et surtout, ils mettent à mal le récit que les proches de Jordan Bardella et Marine Le Pen s'évertuent à construire construire hein, depuis que le dauphin a pris la succession de son maître à la tête du parti. Récit d'un tandem qui fonctionnerait à merveille, où chacun serait à sa place, mais force est de constater, même si on ne sait pas ce qui se passe en coulisses, que le jeune patron du parti prend de plus en plus de liberté dans ses interventions publiques.
Il s'émancipe.
De la ligne de Marine Le Pen, évidemment, il s'émancipe. Et la question, c'est de savoir jusqu'où il va s'émanciper. Est-ce qu'il va rester loyal à Marine Le Pen jusqu'au bout ?
À suivre donc. Merci Pierrick Bonneau pour ces explications, cette analyse. Donald, je vous souhaite une belle journée dans la capitale togolaise à Lomé. Il nous reste encore 4 minutes. On a reçu pas mal de questions concernant, vous savez, la nouvelle constitution adoptée il y a tout juste une semaine au Togo. Bonjour Janvier.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes au Tchad ?
Parfaitement,
on vous écoute.
Euphoria Singh a demandé que la nouvelle constitution soit l'objet de deuxième relecture à l'Assemblée nationale. Pourquoi cette décision ? Est-ce que c'est rétropédalage ? C'est de la part du président.
Alors, faut-il y voir un rétropédalage de la part du président Fornyasimbe ? Bonjour Paul Amegakpo.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de la RFI.
Vous êtes le président de l'Institut Tamberma pour la gouvernance à Lomé. On replante très vite le décor. Constitution adoptée donc la semaine dernière en pleine nuit par les députés. Tollé ensuite au sein de la société civile, dans les rangs de l'opposition. Et voilà donc que le président Yadema demande aux députés de réexaminer le texte.
Oui, exactement. Disons que la demande d'une deuxième lecture de la loi adoptée le 25 mars dernier s'inscrit dans les procédures législatives normales. Parce que l'article 67 de la Constitution et 102 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit que le président de la République pourrait demander à l'Assemblée nationale de procéder à une réexamination de la loi avant même la promulgation de cette loi.
Alors, on voit bien que c'est, constitutionnellement parlant, le chef de l'État a le droit de le faire, mais pourquoi une telle décision ?
Oui, plusieurs raisons pourraient le justifier. Disons que les autorités ont avancé deux raisons essentielles. La première, c'est que toute œuvre humaine est perfectible. Ça veut dire qu'il y a des imperfections dans cette loi et qu'il faudrait les corriger. La deuxième raison, c'est l'intérêt suscité par l'adoption de cette loi par l'opinion publique. Et nous savons que cet intérêt n'est pas en faveur de la loi qui a été adoptée. Dans la mesure où la classe politique, la société civile et même les dignitaires religieux ont condamné cette procédure et réclamé que cette loi soit tout simplement retirée de la législation.
Ouais, mais à quoi peut-on s'attendre concrètement, puisque ce sont les mêmes 89 députés qui vont réexaminer le texte, 89 députés qui ont approuvé la réforme constitutionnelle ?
Oui, il faut dire que cette deuxième relecture est d'ailleurs plus simple, dans la mesure où elle ne requiert plus les 4/5 pour être adoptée. Il suffirait d'avoir une majorité absolue des députés pour adopter le texte revu. Par contre, la procédure pourrait être longue, dans la mesure où le président de l'Assemblée nationale pourrait renvoyer le texte en commission. La commission doit produire un rapport avant que la plénière des députés n'étudie et n'adopte. Ah oui. Et donc, nous pensons que à ce stade, peut-être que la demande des évêques, de la conférence des évêques, pourrait avoir un écho favorable, empêchant donc le président de la République de toutes les manières de promulguer cette loi, où la procédure serait aussi longue qu'elle ne pourrait pas être adoptée avant la fin de cette législature, qui est jugée d'ailleurs illégal et illégitime à connaître de cette étude.
Et rappelons que les Togolais s'apprêtent à élire leurs députés, élections législatives et régionales le 20 avril, donc dans 3 semaines. Merci infiniment, Paul Amegakpo, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut Tamberma pour la gouvernance et du Togo. On en reparlera évidemment très très vite dans Appel sur l'actualité. On revient dans 10 minutes et nous parlerons ensemble de l'investiture dans quelques heures de Bassirou Diomaye Faye au